France Inter.
Je me retourne et là il m'a tiré dessus. Mais j'ai rien compris. Trois balles il m'a tiré. La calache, ils m'ont touché là dans le ventre. Et l'autre elle est ressortie par le dos et ils m'ont tiré sur le côté là et sur le bras. Et j'ai même pas vu sa figure. Je sais même pas pourquoi il a tiré comme ça.
Ce père de famille, visé par erreur dans une affaire de trafic de stupéfiants et qui nous raconte son histoire, vous allez l'entendre, c'est l'une des victimes du narcotrafic. Et il n'est pas le seul, loin de là. Les règlements de compte, les guerres de territoire ont fait l'an dernier près de 350 blessés en France et 110 morts. La police judiciaire, dans une note du mois de mars, parle de violences exacerbées, avec des saisies records, 53,5 tonnes de cocaïne pour 2024, c'est 130% de plus que l'année précédente. Plus d'héroïne aussi, plus de crack, plus de drogue de synthèse et des dealers qui s'installent sur la quasi-totalité du territoire.
La difficulté maintenant sur ce narcotrafic, c'est que la Cour des comptes nous dit, attendez, il y a 77% du territoire qui est impacté. Et les gens, maintenant, se tuent pour conquérir des territoires, s'accaparer des endroits pour assurer des trafics.
La France face au narcotrafic, c'est une émission que nous avons préparée avec trois reporters. Emmanuel Leclerc à La Haye, où Europol tente de démanteler les réseaux. En Eure-et-Loire, avec Sophie Parmentier, qui suit les gendarmes en opération. Et avec Mathilde Vinceneux, qui nous emmène d'abord dans les rues de Marseille, là où la DZ Mafia fait des ravages avec des jeunes ultra-violents. 60% de ceux qui sont mis en examen pour assassinat ont aujourd'hui entre 14 et 21 ans, déscolarisés, privés d'enfance, leur parole est rare et leur vie souvent menacée.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous sommes dans les quartiers nord de Marseille. Je viens de m'arrêter devant la cité de la Castellane. Et comme d'habitude, il y a un guetteur assis sur sa chaise. Ça veut dire que le point de deal est ouvert. On va reprendre la route. Premier rond-point à droite. On arrive cité de la Bricarde. Là, il y a des caddies et des palettes qui bloquent la route, avec des flèches taguées sur les murs qui indiquent où est le point de vente. Et puis un peu plus haut, assis, encore un guetteur. Des points de deal comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines à Marseille, avec toujours ces mêmes silhouettes, ces jeunes en jogging avec leurs sacoches, leurs masques et leurs cagoules. Les petites mains du trafic. C'est difficile de les faire parler au micro, souvent ils refusent ou ils esquivent. Alors pour que leurs paroles soient libres, pour qu'ils puissent raconter le trafic et leur histoire sans peur des représailles, j'ai choisi de m'éloigner des cités et de leur emprise pour me tourner vers ceux qui tentent d'arrêter, ceux qui commencent à prendre du recul.
Un assassinat en plein jour, sous les fenêtres des habitants. Le principal suspect, membre de la DZ Mafia, est suspecté d'homicide sanglant, totalement décomplexé.
Dans les cités marseillaises, les trafiquants de la DZ Mafia tissent leur toile à coups de rafales de Kalachnikov. Ces tueurs à gages, parfois âgés de seulement 14 ans, ont fait des dizaines de morts au cours des deux dernières années.
Les enquêteurs n'ont pas de mots assez forts pour qualifier la dangerosité de ce groupe, dont les méthodes sont comparables à celles des cartels sud-américains.
Nous sommes maintenant devant le foyer Calendal, en plein centre-ville de Marseille. Ça ressemble à une maison bien entretenue sur deux étages avec des volets gris et un grand portail blanc. C'est l'un des rares foyers habilités pour recevoir des mineurs délinquants. Certains garçons ici ont connu l'incarcération, d'autres peuvent avoir été placés comme une alternative à la prison.
Vas-y, parle-toi.
Vas-y, vous voulez du quoi?
Raconte-moi un peu, depuis combien de temps t'es ici?
Depuis combien de temps je suis ici? C'est d'affaire deux mois.
C'est des éducatrices, en gros, ils ont appelé le foyer, ils m'ont ramené ici. J'étais en train de vendre, la police sont venus, et ça m'a embarqué.
Donc toi, t'étais guetteur?
Non, moi de base, je suis vendeur.
T'as commencé à faire ça quand? À quel âge?
J'ai commencé à faire ça à 12 ans. De 12 ans jusqu'à mes 15 ans.
T'as arrêté d'aller à l'école?
En 6e, je crois, ou soit en 6e. Ouais, en 6e, c'est ça. Au fur et à mesure des années, l'école, j'ai commencé à me lasser de ça. Après, j'ai vu le grand frère. Il faisait des allers-retours en prison. Après, il me montrait un peu comment c'était. Après, je me suis lancé dans ça. Après, je me suis incité à aller là-dedans pour amener de l'argent à la maison, à faire manger maman, les petites sœurs. On n'est pas des bandits, on est des débrouillards. On va dire ça comme ça. On ramène le pain à la maison, c'est tout. Genre, tu gagnes pas énormément. Genre, tu es obligé de poser toute la paille pour ta mère. Genre, que c'est elle qui t'a mis au monde. Tu veux le faire plaisir, même si c'est de l'argent halal, comme on dit chez nous. Genre, c'est de l'argent haram, genre, c'est de l'argent qui est pas propre du tout. Mais on peut rien y faire, vu qu'il n'y a que comme ça que nous, on peut se débrouiller à avoir de l'argent. Genre, les petits boulots, c'est mal payé par mois, ça sert à rien. Du coup, c'est pour ça que la plupart des jeunes, ils sombrent dedans la délinquance, allez, on va dire, qu'ils se retrouvent tous dedans les charbons et voilà.
T'es déjà allé en prison ou pas?
Non, jamais. Et je me suis fait péter 2-3 fois au sac.
Donc garde à vue?
Ouais, que garde à vue.
Et là, maintenant, en foyer. Et toi?
Moi, j'ai jamais fait garde à vue. Jamais m'attraper.
Tu vendais aussi ou tu faisais le guetteur?
Non, je gère.
T'étais le gérant?
Ouais.
Est-ce que tu as arrêté ou...
Ouais, j'ai arrêté. En gros, ils préfèrent juste un peu s'éloigner, vu qu'il n'y a que des problèmes dans ce milieu-là. Soit tu finis à la mort, soit tu finis à l'hôpital, ou soit tu mets des balles dans la tête à des gens.
Est-ce que tu as l'impression que les jeunes comme vous, ça travaille pour le réseau de plus en plus jeune? Toi, tu me dis que tu avais 12 ans, c'est jeune, 12 ans?
Eh ben, justement, j'ai vu un petit, quand j'ai arrêté de travailler là-bas, je suis allé 2-3 jours après pour aller prendre mon morceau à fumer. Je le vois, c'est lui qui me sert. En train de me servir, je l'ai regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai mis 2 gifles, il est remonté chez sa mère, il a posé la sacoche.
Et il avait quel âge, ce petit-là?
Ce petit-là, il devait avoir 8 ans.
8 ans?
Ouais, genre, c'est un petit, genre, que genre on aimait tous deux dans le quartier. Mais moi, je voulais pas le voir mourir. Hein. C'est un petit, il a rien à voir, il a rien demandé, il a 8 ans. C'est juste, il est naïf, il sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que quand ça lui a dit, viens, il est venu.
Tu vas où? Au premier? C'est fermé ou c'est ouvert?
C'est moi.
Faut que tu montes en haut. Pourquoi tu as fait quoi?
Attends, je
vais
me faire piquer.
Ah ben tiens, c'est lui qu'il faut interviewer. Spécialiste des hazis.
La marche, le shit.
T'es fou.
Combien tu te faisais d'argent à peu près par jour ou par semaine quand tu étais vendeur?
Le vendeur par jour, il prend 100.
En gérant, tu prenais combien toi?
250.
250 par jour?
Ouais. Ou soit après, ça dépend. Si c'est en temps de guerre, ça peut monter à 300.
La guerre qu'il y a eu récemment, c'est entre la DZ Mafia et le clan Yoda.
Ouais,
ça a fait beaucoup de morts. Toi, t'étais à ce moment-là vendeur sur un point de deal.
Ouais, j'y étais. Il y a des collègues gamos, ils sont morts. Tu peux rien y faire. Tu vas te manger des balles de calage dans la tête. C'est fini. Ton crâne, il explose. Il y a du sang qui gicle partout. Ben, reste comme ça. Ils sont-ils les gens devant moi?
Il y a des gens qui ont été tués devant toi?
Ouais.
Et toi, ça t'est arrivé de voir des gens tués comme ça devant toi?
Ouais, ça m'arrive à nombreuses reprises. Il y en a une, elle s'est fait arracher la jambe par 2 balles de Kalachnikov. Mais bon, après, quand c'est ton heure, et tu peux rien y faire.
Et toi, tu t'es fait tirer dessus déjà?
Ouais, je me suis déjà fait tirer dessus, mais bon, après, il faut être rapide. Et il faut savoir vers où aller, c'est pas tu cours vers celui qui a la guitare. Hein. Faut jamais courir vers le canon.
Pour moi, il faut.
Pardon?
Quelqu'un elle pose les sous, quelqu'un elle vient, elle me tue.
Ils ont posé des sous sur ta tête.
Ouais.
Là, tu viens de soulever ta veste et tu me montres une cicatrice que t'as sur le ventre.
Non.
Plutôt.
Et donc là, tu es en train de me montrer une autre cicatrice sur ton genou.
En gros, il s'est pris un coup de couteau et en gros, le commanditaire, hein, ben, il a foncé dessus, il a explosé la jambe. C'est pour ça qu'il a une grande balle après la jambe. C'est pour le territoire de certains quartiers et du coup, voilà. Pour 30 000 euros, c'est prêt à t'enlever la vie à toi, ton père, ta mère et toute ta famille.
Vous en connaissez? Des gens qui ont fait des contrats comme ça?
Ouais, moi j'en connais, mais il y a certains collègues à moi, ils sont montés, ils ont éclaté des têtes dans certains quartiers. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye un peu de s'éloigner de ça. Hein. Moi, on ne veut pas finir comme eux, on veut pas tuer des gens, vu que devant le bon Dieu, ça va le regretter. Eux, ils vont pleurer, qu'ils vont se retrouver en enfer ou quoi que ce soit. Bon, je suis pas le bon Dieu pour savoir, mais bon. Après, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, maintenant ?
Un peu comme tout le monde, on cherche qu'à s'en sortir, et voilà.
C'est difficile de ne pas avoir la tentation d'y retourner ?
Ouais, c'est difficile, vu que c'est de l'argent facile, après. Genre, c'est de l'argent, dès que tu goûtes, tu reveux manger encore et encore et encore.
Non, c'est pas l'argent facile.
Toi, tu dis, c'est pas de l'argent facile ?
Non, tu veux mourir comme ça.
Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire ?
Être à l'armée. Parachutiste, après suivre mon parcours et après être payé par l'armée, du coup.
Et toi, le travail, t'as une idée du travail ? Tu voudrais faire quoi ?
Je vais faire électricien ou mécanique.
Électricien ou mécanique ?
J'ai un diplôme de coiffeur déjà.
Et t'as un diplôme de coiffeur ?
Ouais.
C'est pour ça les mèches.
Ouais.
Ça sert strictement à rien après de rester dans ce milieu-là. À part pour les jeunes qui n'ont rien à perdre réellement. Et à des jeunes, ils n'ont rien à perdre, ils veulent que de l'argent. Après, je les comprends vu que je passe par là. Et je me dis que s'ils pouvaient avoir le point de vue que j'ai maintenant, ça aurait été mieux.
Hein ? C'est un du bureau, tu as deux placards, tu as vu ? Tu dois avoir encore les lumières rouges.
Megan, tu pourras dire à Ayette que j'ai pris son bureau pour être interviewée ?
Merci. Alors moi je suis Karine Courteau-Lamère, je suis directrice du foyer Calendal depuis 3 ans et demi à peu près. Un des trucs qu'il faut relever, c'est que moi quand j'étais éducatrice il y a longtemps, hein, ça ne me rajeunit pas, c'était plutôt du shit, de la beuh, etc. Là aujourd'hui on est passé au crack, on est passé à la cocaïne, à l'héroïne, et là on est, c'est un cran au-dessus, quoi. Quand ils arrivent tard et qu'ils sont vraiment ancrés dans le réseau, pour nous, c'est compliqué hein, de les sortir. C'est des gamins qui sont complètement déscolarisés, qui ne savent pas lire et écrire, qui sont mimes et directs. Ils vont les chercher au collège, quoi. Ils sont baignés là-dedans. Et puis, il ne faut pas qu'ils se manquent. Il ne faut pas qu'ils se manquent. Parce que s'il y a un guetteur qui a laissé passer une voiture de flic, il va avoir une dette. Nous, on a eu un jeune qui avait été jeune, très jeune, hein, parce qu'il avait 13 ans. Et en fait, il avait passé 5 jours dans un coffre. Et du coup, il a dû rembourser, quoi. Nous, on l'a recherché partout, la police a fini par le trouver, mais il est arrivé dans un état, je peux vous dire qu'il a été longtemps à ne pas sortir du foyer, quoi. Et ça, des fois, moi, je suis obligée de mettre un vigile à l'extérieur, quand je vois que c'est un peu chaud, c'est un peu tendu quand même. Hein.
La vie, c'est un combat, tous les jours, je me lève, je pars à la guerre. C'est rien si tu tombes, apprends de tes erreurs, même dans la peur. J'ai des frérots qui ont pris des années, ferment des peines à 2 chiffres. Et d'autres confinent sous le drap blanc, cause du problème, plus de chiffres. Coup de crosse dans ta tête, couteau dans ta corde, par terre on t'a laissé. Première fois j'ai levé, bavais, soleil, je me suis blessé. C'est la rue qui m'a bercé, c'est la rue qui m'a pris des choses.
À Marseille, la pression des réseaux de trafic de stupéfiants est tellement forte qu'il faut parfois éloigner de la ville les jeunes qui veulent s'en sortir. Je me dirige maintenant vers un autre foyer, sur une petite route qui serpente entre vignes et garrigues. J'ai rendez-vous avec un ancien dealer, il a été placé ici. Ça ressemble à une ancienne ferme.
Bonjour madame.
Bonjour.
Madame.
Mathilde.
Enchantée, bienvenue.
Merci.
Le jeune est bien là.
Fais un petit tour.
Du coup, ici, voilà le groupe des ados, tout ça. Là, il y a le terrain de foot. Et après, y a toute une forêt. Et ça, c'est la plus grande partie d'ici. Ça vide la tête un peu.
Il y a des chèvres, là.
Ah oui, on a des animaux de compagnie. Avec deux ânes. On a des petites chèvres. Barbe noire, barbe blanche et Camille. Viens. Barbe noire. Elle veut pas aujourd'hui, elle mange. Quand elle mange comme ça, elle est concentrée. Moi, j'ai 18 ans.
Et je suis né à Marseille et j'ai grandi la plupart de mon enfance dans les quartiers nord de Marseille. C'est à l'âge de 16 ans, 17 ans que là j'ai décidé de commencer à rentrer dans le trafic. J'ai commencé directement par vendeur. Et moi, en fait, je suis tombé dedans avec la gourmandise. La gourmandise de l'argent. Généralement, moi, c'était que des temps pleins parce que j'avais faim de sous. Donc, que des maxi payes. Après, ouais, forcément, des maxi risques aussi. J'ai un ami à moi qui est décédé malheureusement dans le trafic de stup. J'y pense encore beaucoup. Il est mort 3 balles dans le thorax et 1 balle dans la tête. Voilà. 17 ans.
Est-ce que ça a joué dans le fait que vous ayez envie de quitter le trafic de stupéfiants ?
Ben, en soi, oui, parce que du coup, quand on prend du recul, on se dit peut-être la prochaine sur la liste, c'est nous. Je compte pas finir ma vie dans ça, quoi. C'est pas... On n'a pas d'avenir dans ça.
J'ai vu de toutes les couleurs, putain, dans la cahier. Été, hiver, sur le terrain, même quand il caillot. Le minot t'a giflé, revient se revenger. Attaque soviétique et pequeño.
Est-ce que ça a été facile d'arrêter ?
Pas vraiment, parce que t'auras toujours quelques personnes qui viendront derrière toi te dire « Ouais, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Viens taffer si tu veux. » Il a fallu que j'arrête tout contact.
Ça veut dire couper les liens ou en tout cas s'éloigner de tous vos amis.
C'est ça.
Où est-ce que vous trouvez la force de vous dire « Je vais y arriver, je vais pas replonger là-dedans » ?
Ben, là en ce moment, avec le parcours que je suis en train de suivre, comme je suis en réinsertion professionnelle, là dans pas très longtemps, je devrais commencer une formation manutentionnaire, préparateur de commandes aussi. Et c'est cette chose-là qui pourrait permettre de m'en sortir dans la vie, de devenir quelqu'un de normal, quoi. Peut-être trouver une femme, avoir une vie normale. Un appart, une maison. Mais ouais, je me vois bien, quoi. Je me vois pas finir derrière les barreaux avant 30 ans, voilà.
En 2023, il y a eu ce record à Marseille. 49 morts dans la guerre pour le contrôle des points de deal. Des tirs en rafale, parfois à l'aveugle. Car derrière les armes, c'est nouveau, il y a ces ados tueurs à gages, comme Matteo, 18 ans, qui se filmait hilar après ses contrats.
Sur la vie, on va dire, je suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler.
Soupçonné de plusieurs assassinats, dont celui d'un jeune de 22 ans, criblé de balles en mars 2023. Ce jour-là, un autre homme a été touché par les tirs. Il a accepté de me rencontrer. C'est la première fois qu'il prend la parole. Je le rejoins dans un hôpital à Marseille, juste avant une nouvelle opération.
Madame Seck, numéro 2, d'habitude j'arrive.
J'ai 63 ans, j'habite dans le quartier nord. Voilà ce que l'histoire qui m'est arrivée. C'est un vendredi. Le 17 mars 2023, je suis sorti de chez moi, il faisait un peu nuit, donc j'ai pris ma voiture pour aller à la mosquée. Et après, je descends de ma voiture, je ferme, je traverse la route, personne. Je monte les escaliers, il faisait noir, je ne voyais rien. Et d'un coup, j'entends un bruit. Moi, je croyais que c'était un chat qui a fait un bruit. Je me retourne. Et là, il m'a tiré dessus. 3 balles, il m'a tiré. Avec la calache, mais j'ai rien compris. Je n'ai même pas vu sa figure. Je ne sais même pas pourquoi il a tiré comme ça. Et normalement, il aurait dû même pas tirer sur moi. La drogue, là. J'ai rien à voir, rien à voir avec eux. Victime collatérale. Il m'aurait parlé. J'aurais parlé avec lui. Peut-être que ça ne serait pas arrivé. Je n'ai pas eu le temps de parler et que... m'a tiré dessus. Et là, je suis tombé dans les escaliers, je roulais.
Elles vous ont touché où, les balles de Kalachnikov ?
Elles m'ont touché là, dans le ventre. Et l'autre, elle est ressortie par le dos. Et elles m'ont tiré sur le côté, là, à gauche, et sur le bras.
Là, vous me montrez votre bras et vous avez une grosse cicatrice au niveau du pli du coude.
Voilà. J'étais dans le coma, 10 jours dans le coma. Et là, le docteur, il a dit, je ne sais pas s'il va vivre ou il va mourir. Et là, je suis revenu à la vie. C'est Maktoub.
Le destin.
Le destin. Il m'a opéré 2 fois. Et là, il reste des impacts de balles dans mon corps encore. Et le docteur, il a dit, vous vivez avec. Donc, il ne peut pas les enlever parce que s'il enlève tout, je risque de mourir.
Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en fauteuil roulant.
Je ne tiens plus sur mes jambes. Quand je me mets debout, je tombe. Je ne peux plus marcher. J'ai dit alors, docteur, est-ce que je veux marcher ou est-ce que je ne veux pas marcher? Et le docteur m'a répondu, avec le temps, on va voir. C'est un calvaire. Avant, je ne pouvais pas manger. Là. Je me mets le sang dedans le nez et rentrer jusqu'au ventre pour que je me nourris avec ça.
Aujourd'hui, est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir sortir de l'hôpital?
Aujourd'hui, je ne sais même pas quand je vais sortir. Moi, ça me répartirait dessus. Je serais encore de travailler. Je n'avais complètement rien à voir. Je travaillais, je gagnais ma vie. J'avais des enfants à nourrir. Et maintenant, ça fait 2 ans que je souffre avec mes jambes. J'en peux plus.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris que l'homme qui était suspecté de vous avoir tiré dessus avait 18 ans? Il se présentait comme un tueur à gages pour les réseaux de trafic de stupéfiants?
Oui, si jeune que ça, là. Moi, je suis choqué. Là, il l'a attrapé déjà. Il est en prison. J'espère que le juge qui va donner une peine, qu'il va se rappeler, au moins.
Qu'est-ce que vous espérez, vous, maintenant?
Maintenant, je vais essayer à marcher, je vais faire mon possible de marcher. Et on verra après, par la suite. Voilà.
La guerre du narcotrafic ne s'arrête pas aux frontières des grandes villes. À l'échelle du territoire, 1 Français sur 2 a déjà fumé au moins une fois du cannabis. 10% de la population a déjà consommé de la cocaïne. Alors même si les quantités sont moins importantes à la campagne, les dealers qui publient leurs annonces sur TikTok, sur Snapchat, sur Telegram, se battent également pour contrôler les territoires ruraux. Direction Nogent-le-Rotrou, petite ville de moins de 10 000 habitants en Eure-et-Loire, où Sophie Parmentier nous emmène au milieu d'une opération de la gendarmerie.
Allez, s'il vous plaît, on se rassemble. Votre mission, contrôler la zone. Cadre légal, on est sous réquisition du procureur. Vague de ratissage, contrôle d'identité, dépistage TUP. Si c'est positif et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un en local, perquisition.
Donc là, on part en opération avec vous.
Oui, donc je suis le chef d'escadron Martin Frédéric et je commande, comme je le disais, la compagnie de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou. Et je suis accompagné de l'adjoint-chef de Nice qui commande la brigade de Nogent-le-Rotrou.
Donc là, vous allez traquer les dealers et les consommateurs ce matin.
Exactement. Le trafic aujourd'hui est présent partout, sur l'ensemble du territoire national et Nogent-le-Rotrou, bien évidemment, est impacté. C'est pour ça qu'ici, il faut vraiment qu'on soit présent au quotidien et qu'on maintienne cette pression pour éradiquer ce phénomène qui est un poison pour la société.
Et la dernière fois que vous avez procédé à des interpellations, c'était il n'y a pas longtemps ?
Oui, effectivement, on a procédé à des interpellations tout fin mars de cette année. On avait 7 gardes à vue sur une opération judiciaire menée par la brigade des recherches sur le trafic de stupéfiants local, du cannabis et de la cocaïne. Une belle enquête, hein, puisque nous avons eu 5 détentions provisoires. Alors, sur les saisies n'étaient pas très très importantes. De mémoire, on devait être sur environ 300 grammes de cannabis et une 40aine de grammes de cocaïne.
Vous traquez tous les trafics, même les plus petits ?
Exactement. Là, on est face au bâtiment 41 rue. Donc, c'est un bâtiment à 4 niveaux, plusieurs appartements, bâtiment qui a été régulièrement squatté par une équipe de 2 ou 3 vendeurs.
Donc là, on entre dans le hall de l'immeuble.
On rentre dans le hall de l'immeuble. Donc l'idée, c'est de faire passer l'équipe cynophile dans toutes les coursives, hein, dans tous les communs. Et puis après, on s'adapte hein, si le chien marque, et notamment au niveau de la porte d'une habitation, on va frapper et puis on pourra partir en perquisition.
C'est vous le maître chien ?
Oui, c'est moi le maître de chien.
Donc là, votre chien, il renifle. Là, on est descendu dans une cave.
Alors, il essaye de détecter tout ce qui est matière stupéfiante et également des billets de banque. Il s'appelle Padawan. Il a 5 ans. C'est un malinois. Voilà.
On est dans le noir. Vous avez une lampe torche sur le front pour voir un peu quelque chose.
Pour voir le travail du chien, ses réactions.
Ça, c'est le chien qui vous tire. On sort de la cave. Il a rien repéré dans la cave.
Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il cherche ailleurs.
Bonjour monsieur.
Ils étaient là au deuxième étage.
Des gens du quartier ?
Non, je ne les connaissais pas.
Ils étaient jeunes ?
Oui. Ben, moi, ils m'ont tapé dessus.
Ils vous ont tapé dessus ?
Ben, ils m'ont balancé dans les escaliers, oui.
Pourquoi ? Parce que vous leur disiez de partir ?
Ben oui. Il y en avait marre.
Même si nous sommes en zone rurale, on a malgré tout un trafic de stupéfiants bien installé, bien organisé, avec des choufs, en mesure d'alerter justement ces vendeurs qui ici squattent les communs du bâtiment. D'ailleurs, vous pouvez encore en voir les stigmates, hein, les murs sont dégradés. Là, vous voyez ici, il y a une autre inscription, vous avez une liste de différents véhicules, et ce sont nos véhicules.
Là, sur un mur, les guetteurs avaient inscrit les marques de vos voitures, Clio, Berlingo, Opel, Skoda, Kangoo.
C'était pour échapper à nos contrôles. Dès lors qu'ils voient nos véhicules, ils prennent la fuite. La difficulté, c'est que malheureusement, ici, dans ce bâtiment, on a eu quelques résidents qui les ont aidés, ce qui fait que ça nous a compliqué la tâche.
On poursuit le contrôle ?
On poursuit le contrôle. Messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez venir ? On va faire un petit contrôle d'identité.
Donc là, les gendarmes sont en train de contrôler un jeune homme sur vêtements noirs, t-shirt gris, claquette rouge.
Si vous achetez du CBD, vous êtes obligatoirement... Vous devez avoir la facture sur vous.
Donc qu'est-ce qui se passe là ?
Bah là, le problème, c'est qu'il dit que c'est du CBD, mais du coup, il y a...
Vous l'achetez où, monsieur ?
Au tabac. Mais j'ai pas le papier du tabac. Voilà.
Vous pensez que c'est du CBD, alors, ou c'est la drogue ?
En fait, il n'y a pas de preuve, quoi. La preuve n'est pas là. Concernant le CBD, il n'y a pas la facture. Ça ressemble, trait pour trait, à la résine de cannabis. Donc on doit verbaliser et procéder à la destruction. Là, je vous dirais,
Vous faites partie des hommes déployés ce matin pour cette opération de contrôle, mais vous n'êtes pas en uniforme de gendarme.
Je suis le major Bayard, la brigade de recherche de nos gendarmes.
Est-ce qu'il y a une spécificité nouvelle pour vous ? Vous avez dû vous adapter à ce narcotrafic dans les zones rurales ? Est-ce que le fait qu'il y ait cette progression importante change vos méthodes de travail à vous sur le terrain ?
Oui, complètement. Depuis quelques années, c'est vrai que ça a assez évolué. Avant, c'était les trafiquants locaux qui se rendaient dans les grandes villes pour s'approvisionner. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est les trafiquants des grandes villes qui viennent installer des gens à eux, des dealers, dans les campagnes, dans les villes de petite et moyenne importance et qui prennent le marché directement sur place.
À partir de quand vous avez observé cette transformation ici ?
Je dirais que ça fait 2-3 ans. Ça a commencé d'abord par un système de livraison où ils équipaient des individus, pas forcément des grands trafiquants ou des gens de la petite délinquance, avec des véhicules et des stupéfiants en diverses quantités et divers produits, et qui partaient à la journée dans les campagnes faire des points de deal éphémères en véhicule. Mais c'était, on va dire, des shit trucks, hein, entre guillemets. Donc ils venaient s'installer à un endroit, les consommateurs le savaient. Et vers 2021-2022, on a commencé à avoir des gens qui étaient parachutés, hein, dans des communes pour tenir un point de deal tenu par des commanditaires dans des grandes villes, moyennes villes à côté. notamment ici avec la proximité de Dreux, qui a cherché à s'installer ici, notamment 2 années de suite.
Donc avec des dealers citadins qui se sont installés en zone rurale.
Exactement, mais on a aussi quelque chose qui est un petit peu particulier. On va avoir aussi des individus qui viennent de n'importe quel autre coin de la France, qui sont recrutés via les réseaux sociaux. C'est des offres d'emploi en fait pour venir travailler sur un point de deal qui est géré par la grande ville d'à côté, mais ces gens-là ne sont absolument pas originaires des secteurs sur lesquels ils travaillent.
Et ils viennent d'où par exemple? De Marseille, de Lille,
de
Paris?
De France, de Rennes, de n'importe où. C'est des offres d'emploi via les réseaux sociaux. C'est à celui qui va répondre à l'annonce qui va venir travailler. Donc ça amène une difficulté particulière puisqu'on ne connaît pas ces personnes sur les secteurs en fait, et c'est parfois compliqué de les identifier. On a aussi beaucoup des habitants consommateurs de stupéfiants qui vont, pour pouvoir financer leur consommation, revendre une partie de ce qu'ils achètent. Et bien souvent, ils se retrouvent avec le bouche à oreille à la tête de réseaux d'une petite ou moyenne ampleur auxquels ils n'avaient pas eu l'idée au départ. Et en fait, ils sont sollicités et le fait d'être sollicités, ils vont en racheter encore et les gens vont venir.
L'opération de contrôle avec les gendarmes est terminée. On va retourner au numéro 41, là où il y avait le point de deal. On va essayer d'aller à la rencontre d'habitants. Voir si quelqu'un peut nous ouvrir. Sophie Parmentier, je suis journaliste à France Inter. Les gendarmes nous ont expliqué que ici, dans votre immeuble, c'était un point de deal. Là, je vois que sur votre porte, en fait, il y avait des inscriptions. On a tous les sous avec des insultes.
Oui, vendeur de drogue et tout.
Et tous les jours, il y avait du trafic.
Ah bah, oui.
Et vous, ils vous importunaient?
Non. Je fermais mes yeux, j'ouvrais pas la porte. C'est pour ça qu'ils m'ont mis la balance, que pour eux, c'est moi qui balançais tout.
Ils ont considéré que vous étiez une balance?
Voilà, c'est ce qui a marqué. Hein.
Ah, je vois, ils avaient écrit « grosse balance », mais là, ils ont essayé d'effacer, en fait.
Voilà, c'était dur.
Ils étaient menaçants avec vous?
Oui. Ouais, vas-y, c'est grosse pute, salope... Des gros mots. Et bon, ça a duré un an.
Et les gens à qui ils vendaient, vous les connaissiez? C'était des habitants là du quartier?
Non, non.
Vous êtes dans le département depuis longtemps. Le trafic de drogue, quand vous étiez jeune, c'est quelque chose qui existait?
Ah oui.
Ah, ça a toujours existé?
Oui. Bah oui, moi j'ai 54 ans. Oui, j'ai connu ça depuis 54 ans.
Vous en consommiez, vous?
2 fois. Le soir, pour m'endormir, et c'est tout.
De la résine de cannabis?
Oui.
Mais
ça vient cher.
Mais c'est parce qu'il y a des consommateurs qu'il y a des trafiquants?
Oui.
En tout cas, ça vous arrive d'en consommer encore, quand vous avez les moyens?
Oui, voilà. Mais bon, c'est pas tout le temps, c'est... Voilà. Quand je peux.
Comment vous trouvez ce cannabis, en fait? C'est avec des habitants du quartier? Vous le commandez via le téléphone? Comment vous faites pour vous procurer du cannabis?
Non, je vais en ville... Si je vois quelqu'un que je connais, qui m'a déjà vendu, voilà. Là, je ne prends que 10 euros, moi, c'est tout.
Et pour 10 euros, vous avez quelle quantité?
1,5 g. Bon, ça va, moi, ça me fait ma semaine. Tranquille.
Merci, madame. Merci d'avoir ouvert votre porte. Merci, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Il n'y a pas de semaine, presque de journée, sans que me parviennent des éléments extrêmement graves et extrêmement inquiétants sur le narco-banditisme.
Bruno Retailleau, 1er novembre 2024.
Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout, en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Ils n'ont plus de limites. Soit il y a une mobilisation générale, soit il y a la mexicanisation du pays.
Monsieur le procureur?
Oui, merci, bonjour.
Bonjour, monsieur le procureur.
Ça va ?
Alors, donc, je m'appelle Frédéric Chevalier, 2L-IER, c'est important. Ben, je suis magistrat depuis 30 ans, je suis procureur à Chartres depuis le mois de septembre 2022, donc ça fait 2 ans et demi, disons, voilà. Alors, parler de narcotrafic, c'est assez récent. C'est quoi ? C'est une expression pour dire trafic de produits stupéfiants. Moi, depuis 30 ans donc, que je suis magistrat, ça fait 30 ans que je lutte contre les produits stupéfiants. Hein, voilà. La grande nouveauté, il y a ce 14 mai 2024, moi, pour moi, c'est l'année zéro de la prise de conscience d'une lutte acharnée dorénavant contre le narcotrafic. C'est la mort de 2 collègues, 2 agents pénitentiaires, froidement abattus. Enfin, vous voyez...
Donc c'est l'évasion de Mohamed Amra, ouais. Alors qu'il était en transit depuis sa prison, et donc 2 surveillants pénitentiaires qui sont froidement abattus.
Exactement. Je ne pensais pas que pour quelques boulettes de shit ou quelques dizaines de milliers d'euros, on puisse abattre 2 personnes comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que moi, en Eure-et-Loire, comme procureur de la République, je peux essayer de comprendre et de mettre en œuvre, c'est qu'il faut absolument que nous aussi, nous nous organisions. Pour s'organiser, il y a notamment le fait de pouvoir se parler entre services. Mais je crois qu'il faut vraiment partager dorénavant des informations entre tous ceux qui connaissent de ces situations. On se réunit pour échanger sur des cibles et dire celui-ci, bah, cette cible-là, elle est prise en charge pour l'instant judiciairement, très bien. On l'a mis de côté. Cette cible en devenir, on investigue. Il fait quoi dans la vie ? Comment ça se fait qu'il roule en ADI A3 alors qu'il touche le RSA ? Sur le département d'Eure-et-Loire, on va avoir, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de cibles où on va se réunir pour échanger et savoir quel service suit la personne, comment on investigue sur cette personne et comment on arrive à un moment donné, une fois qu'on l'a ciblé, l'autre maître mot, c'est de l'entraver. Je veux que nous puissions lutter, en tous les cas, pour faire en sorte que ce ne soit pas les voyous qui gagnent à la fin. Et donc, cette industrie du produit stupéfiant, on peut employer ce terme-là, elle rencontre des débouchés énormes, et aujourd'hui, on se rend compte que ça a des implications touchant l'organisation même de nos États.
Pour comprendre l'essor du narcotrafic et tenter de le combattre, il faut sortir de France. Passer les frontières, aller jusqu'à La Haye, aux Pays-Bas, avec Emmanuel Leclerc, à la rencontre des policiers et des gendarmes d'Europol qui ont, ces 5 dernières années, infiltré plusieurs messageries cryptées. Sky ICC, EncroChat et Ghost, réputés inviolables. Ils ont récolté plusieurs milliards d'informations qui permettent aujourd'hui encore d'arrêter des trafiquants et de démanteler des réseaux. Plusieurs d'entre eux n'ont jusqu'ici jamais parlé aux journalistes.
France Inter, Interception.
Hi, could I have a badge? Badges for them for the secure zone, please. Thank you. Donc là, c'est pour rentrer dans la zone sécurisée où tout le travail opérationnel à Europol se passe. Donc effectivement, comme je dois faire passer mon badge, ensuite j'ai une lecture de mes empreintes digitales pour s'assurer que c'est bien moi. Il y a également une lecture de la cartographie des veines, au cas où quelqu'un se prendrait, voudrait couper ma main et essayer d'accéder, ça ne peut pas marcher. Il faut que la main reste attachée au corps. Donc nous prenons notre sécurité... très sérieusement ici, forcément, on est à risque. On a beaucoup de données ici qui pourraient intéresser de nombreuses personnes.
Donc, Claire Jean, vous êtes porte-parole d'Europol depuis combien d'années maintenant ?
Alors, je suis porte-parole adjointe depuis 4 ans ici à Europol et ça va faire 10 ans que je travaille dans l'agence.
Good morning, it's Claire from the press office. I'm here with my journalist from France Inter. Would you mind opening the door, please ?
Of course.
Et donc nous voilà dans Europol, la zone sécurisée, comme vous avez pu voir. Et c'est là où toutes les réunions opérationnelles ont lieu. Donc à l'instant même, vous pouvez voir, toutes les salles de réunion sont occupées avec des enquêteurs européens et du monde entier qui viennent ici pour discuter des dossiers en cours.
Quant à moi, je suis commandant de police, je travaille comme officier de liaison au bureau France d'Europol, donc je représente la France. Mais à l'époque des dossiers en cours Chatsky et par la suite Matrix, etc., je m'occupais d'organiser les équipes chargées de la protection de la vie et des affaires les plus sensibles.
Et vous, Jean-Yves Goriou, vous êtes le chef de l'unité crime organisé à Europol.
Et vous, vous êtes arrivé ici aux Pays-Bas à la veille de cette opération d'infiltration numérique, hein, SkyICC, la plus importante jamais menée en Europe.
Alors en fait, j'ai représenté la France ici pendant 3 ans dans l'opération SkyICC. On a installé les ordinateurs le samedi et le lundi, on était en train de regarder les messages. Donc oui, c'était un moment professionnel inoubliable.
À cette époque-là, ils pensaient que leur système de cryptage était inviolable.
Oui, totalement inviolable. Hein. Aussi bien dans EncroChat que dans Sky, d'ailleurs. Les gens avaient acquis vraiment une confiance énorme dans le système. Hein. Au point que certains d'entre eux n'hésitaient pas à faire des selfies devant des containers de cocaïne.
On voit arriver les premiers messages, et puis tout d'un coup, c'est le Niagara, et vous vous retrouvez en fait submergé par une quantité d'informations incroyables, et en plus des choses extrêmement urgentes, et énormément de violence quand même. Dans EncroChat seul, c'est pratiquement 200 assassinats qui ont été empêchés. Hein. Donc il ne s'agit pas seulement de problématiques liées au trafic de drogue, etc. Il y a en plus les conséquences de ce trafic, c'est-à-dire la violence.
Il y a 24 bureaux qui sont là. Donc 24 bureaux, c'est 24 pays différents. Enfin, on peut dire que c'est sur ces ordinateurs que sont parties quasiment 6000 interpellations dans le dossier SkyECC un peu partout dans le monde.
Ça, c'était du jamais vu, quoi.
Jamais. Alors, si, il y a eu une première opération, EncroChat. Ces plateformes cryptées ont amené une connaissance encyclopédique sur l'organisation interne du crime organisé par le monde. Et il y a toujours un jus à extraire de ces fruits, une manière de comprendre la donnée, parce que la donnée elle nous informe sur des modes opératoires, sur des réseaux. Les données qui ont été récupérées, il n'y a rien de scénarisé. On n'appuie pas sur un bouton et puis tout de suite on comprend qui a fait quoi, comment. Et il n'y a pas d'annonce en voix off au début pour nous expliquer qui fait quoi. Donc il faut découvrir, comprendre, mettre en relief, croiser les informations qu'on peut avoir de manière à comprendre le schéma. Et à identifier aussi l'utilisateur, parce qu'on a compté 165 000 utilisateurs. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a identifié? Est-ce qu'il a échangé des messages qui nous permettent de l'identifier? Et donc, y en a certains qu'on n'a pas encore identifiés. Donc on les identifie tardivement parce qu'on va recouper une information qui vient d'un pays, une information triviale, une plaque de voiture qui est photographiée, une frontière par exemple, et va nous faire comprendre, puisque cette plaque, on l'a, nous, dans nos bases de données, va nous faire comprendre qu'en fait, ce sont peut-être les mêmes personnes. Et c'est là où le rôle de l'analyse va être intéressant, c'est que des années après, on va découvrir un auteur qu'on n'était pas en capacité d'identifier 3 ans avant.
L'avantage avec Sky, EncroChat, etc., c'est qu'il y a tellement de données qu'on est capable de tirer des conclusions. Et en ce qui concerne le blanchiment, par exemple, on arrive à des conclusions qui sont très clair, et l'une d'entre elles notamment, c'est plus c'est gros, plus c'est cash. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les plus gros trafiquants s'entourent d'une armée d'avocats, créent des choses très complexes, etc., ce dont on s'aperçoit, c'est que pas du tout. Tout ça s'organise de manière très traditionnelle et très simple, avec des schémas de compensation tels qu'on les a pu les observer dans d'autres dossiers d'ampleur moindre.
Et c'est-à-dire que là, vous remettez l'argent, on est d'accord, à des banquiers occultes, en cash, et vous pouvez le récupérer à l'autre bout du monde, en
ouais,
cash également.
Ouais, tout à fait.
Sans que l'argent n'ait pris l'avion.
Ouais, ça, l'argent ne circule pas, ce qui circule, c'est la valeur. En réalité, pour bien le comprendre, il faut simplement envisager l'argent comme une marchandise que les trafiquants vendent et que les courtiers, les banquiers souterrains rachètent.
Merci de nous accueillir, Jean-Philippe Lecouf. Vous avez vu sur le port de Rotterdam, quasiment?
Quasiment. Il est un petit peu plus loin, là-bas, dans la brume néerlandaise. Mais oui, on a une belle vue là depuis le haut de la tour.
Et là, sur ce port, comme celui d'Anvers, comme celui du Havre en France, est-ce que vous avez encore, là, ces derniers mois, des enquêtes, des opérations que vous déclenchez qui sont liées aux premières infiltrations comme EncroChat, comme SkyICC?
Tout se tient un peu. On a des fils qu'on continue de tirer de l'époque. On s'aperçoit que tous ces dossiers sont liés. En fait, ce qu'on ne savait pas bien, c'est quels étaient les business models. Un exemple qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'on imaginait ces groupes en perpétuelle compétition, voire en guerre. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu dans ces messageries, c'est qu'à un niveau supérieur, ils sont dans la coopération plutôt que dans la compétition. Parce que la compétition n'est pas bonne pour le business. Ça, on l'a vu à travers les messageries. Hein, puisque habituellement, quand on travaille des réseaux criminels, On part du bas et on essaye de remonter. C'est toujours ce qu'on dit. Là, avec les messageries, on a fait l'inverse. On est parti du haut et on a éclairé vers le bas.
Vous suivez encore les gens que vous avez identifiés il y a 5 ans maintenant, qui malheureusement pour certains, courent toujours.
Oui, alors un grand nombre de ceux qu'on a identifiés et sur lesquels, je dirais, les enquêtes ont abouti, font l'objet de mandats d'arrêt internationaux, de notices rouges d'Interpol, etc. Donc oui, on les suit. Certains sont un peu plus gênés, je pense, qu'avant, pour voyager, pour passer des postes frontières, pour récupérer effectivement l'argent du crime. Nous, on est derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'on lâche pas l'affaire. Le crime, lui, ne connaît pas les frontières. Nous, ici, on essaye de les abolir aussi pour les policiers, les gendarmes et les douaniers. En tout cas, c'est ce à quoi on s'emploie.
La France face au narcotrafic, c'est un reportage de Mathilde Vinceneux, Sophie Parmentier et Emmanuel Leclerc. Prise de son, Gilles Gallinaro en Eure-et-Loire et Martin Troidec à La Haye. Réalisation, Guillaume Giraud. Attaché de production, Martine Messonnier. Mixage, Valérie Lavalard. Pour réécouter cette émission, abonnez-vous à Interception sur l'appli Radio France.